Cet après-midi, nous allons voir cette affaire où le Seigneur Jésus a lavé les pieds aux apôtres. Quel enseignement, quel exemple ne nous donne-t-il pas afin que nous aussi, nous apprenions à nous aimer les uns les autres? Est-ce que vous pensez que vous aimez suffisamment? Ou est-ce que des fois, vous êtes un petit peu peiné de vos attitudes et vous souffrez de ne pas suffisamment aimer? Est-ce que vous aimeriez aimer davantage? Oui, vous n'êtes pas nombreux quand même. Est-ce que vraiment vous pensez que vous seriez plus en bénédiction si vous aimiez les autres davantage? Vous avez vu, ce matin, on a parlé de comment ça s'est déchiré dans la famille d'Isaac. On a du mal à le croire. Comment ils ont pu se déchirer tous les quatre? Ils n'étaient que quatre. Et ils se sont déchirés. Et heureusement que Dieu est intervenu et que la grâce de Dieu s'est manifestée. Oh, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Jean chapitre 13, verset 1er. Cette histoire, Dieu a voulu qu'elle soit dans la parole parce qu'elle est importante et parce qu'elle nous sert d'exemple. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Vous avez retenu l'expression « mit le comble à son amour pour eux ». Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi, c'est-à-dire de communion. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » C'était Pierre. Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. » Mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Je relis ce verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, virgule, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Il y a dans ce chapitre 13 ce qu'on pourrait appeler une clé du bonheur. Est-ce que ça vous intéresse d'être heureux? Est-ce que vous voulez être heureux pour vous ou est-ce que vous voulez être heureux pour être en bénédiction aux autres? Les deux, c'est bien. C'est équilibré. Le Seigneur Jésus veut que l'on soit heureux. Quand vous lisez le sermon sur la montagne, il commence avec les béatitudes, heureux ou béni. Hein? Heureux les... Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'aider? Heureux les pauvres? Non. Pas les pauvres. C'est pas complet, c'est pas ça, ça va pas ça. Les pauvres en esprit. Eh oui, c'est pas pareil. Mais ça, je le dis parce que, voyez, on a souvent cité heureux les pauvres. Mais c'est pas ça qui est écrit. Heureux les pauvres en esprit. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a des gens qui sont très, très, très riches et qui sont pauvres en esprit. C'est une pauvreté spirituelle, c'est-à-dire je dépendrai toujours de Dieu. C'est ça que ça veut dire heureux les pauvres en esprit. Spirituellement, je ne dépendrai pas de mes forces, je ne dépendrai pas de ci ou de cela. C'est une pauvreté, c'est-à-dire j'aurai besoin de dépendre. Un pauvre, il y a des versions, la version anglaise dit heureux les mendiants. Les mendiants, ils dépendent de quelqu'un d'autre pour se nourrir. Eh bien, ça veut dire que si on dépend de Jésus toute notre vie pour être nourri spirituellement, eh bien, on sera heureux. Heureux les miséricordieux, heureux les doux, heureux ceux qui procurent la paix. Prenons que ces trois cas, la douceur, la miséricorde, la paix, ça vient d'où ça? Qui c'est qui le donne? C'est Jésus, c'est le fruit de l'esprit. La miséricorde, approchez-vous du trône de la grâce. Donc on voit bien que le bonheur dépend en vérité d'une communion avec Dieu. Le bonheur dépend de quelque chose que Dieu nous donne. Cette douceur, cette miséricorde et cette paix doivent nous venir de Dieu. C'est pas de la poésie, ce n'est pas un sermon pour dire, tiens, vous êtes doux, c'est bien, c'est votre caractère, c'est bien. Vous êtes miséricordieux, c'est bien. Ah, toi, tu ne l'êtes pas, ah, c'est le caractère. Non. On voit bien que la miséricorde, la douceur et la paix, ce sont des fruits que l'on obtient lorsque l'on est pauvre en esprit, lorsque l'on dépend vraiment du Seigneur. Et Jésus dit bien « heureux ». Donc, nous en déduisons que nous ne pouvons être heureux que si nous recevons du Seigneur. Jésus, ce jour-là, il savait qu'il allait mourir. Vous avez vu, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et vous avez vu ce qu'il fait le Seigneur. Il sait qu'il va mourir. Et comment il va mourir? Comment il va mourir? Dans quelle souffrance il va mourir? Et ce que les gens à qui il va laver les pieds vont lui faire? Est-ce qu'il le sait que tout le monde va l'abandonner? Est-ce qu'il le sait que Judas va le vendre pour 30 pièces d'argent? Est-ce qu'il le sait que Pierre va le renier? Est-ce qu'il le sait tout ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Il met le comble à son amour. Je pense que même le frère ou la sœur qui pourrait être le plus proche de Dieu ne connaissent rien de l'amour de Dieu. C'est la façon de parler. Nous l'avons vu ce matin, Jacob fuit, sa mère est en dépression, son frère veut le tuer, son père est en pleine crise de nerfs, tout le monde bat de l'aile dans la famille, tout le monde s'enfuit, se dispute. Et Dieu montre à Jacob une échelle pour lui montrer qu'il ne l'a pas abandonné et qu'il sera avec lui. Combien ça fait du bien de savoir que Dieu nous aime. Et là, il met le comble, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire plus. Quelque chose qui est comble, comme des fois à la salle le dimanche matin. On ne peut pas mettre une personne de plus. C'est comble. Le Seigneur, il ne peut rien faire de plus, de plus grand. Le Seigneur du ciel et de la terre. Le Créateur de l'univers, manifesté en chair, en la personne de Jésus-Christ, prend la forme de l'esclave et va se mettre à laver les pieds à tous les apôtres. Judas y compris. Pierre avec. Tous. Tous qui vont l'abandonner, il va tous leur laver les pieds. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce qu'il a fait, alors il y a beaucoup de choses qui sont là incluses, cette humilité, il aurait pu le faire faire à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il aurait pu dire, ben Nathanaël, va chercher une bassine là-bas. Toi, Barthélemy, va chercher un linge. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il va vous faire. Parce que vous en avez besoin, vu ce que vous allez faire, vu ce que vous allez me faire. Il aurait pu le dire. Ben, bien sûr. Et non, n'oubliez pas, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est là, accroupi comme un esclave, en train de leur laver les pieds. Quelle grâce! Quelle grâce. Et Pierre qui, lui, se démène, il dit « Non, toi, tu ne me laveras pas les pieds. » Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce que nous sommes pareils que lui. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous demande de faire quelque chose. Quand Dieu nous demande de nous aimer, vous croyez qu'on l'a compris toujours? Est-ce qu'on a toujours compris? Quand Dieu nous demande de pardonner, vous croyez qu'on l'a compris? Quand on voit des chrétiens qui disent « Non, je ne pardonne pas. » Vous croyez qu'ils ont compris? Et j'espère qu'ils ne le comprendront pas trop tard. Parce que le problème, c'est que quand Dieu nous demande quelque chose, il faut le faire. À la limite, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Dans le monde, quelqu'un qui vous dirait de faire quelque chose, si vous ne le comprenez pas, vous ne le ferez pas. Oui ou non? Si quelqu'un dans le monde vous demande de faire quelque chose, vous le ferez? Si vous ne le comprenez pas? Ben non. Mais si Dieu, lui, vous demande de faire quelque chose, même si vous ne le comprenez pas, est-ce que vous pouvez le faire? Ben bien sûr, c'est évident. Dieu ne peut pas vous tromper, Dieu ne peut pas vous vouloir du mal. Et quand le Seigneur demande quelque chose, c'est déjà la preuve qu'on peut le faire, mais c'est surtout important pour nous. Et quand un chrétien ne veut pas aimer, quand un chrétien ne veut pas pardonner, quand un chrétien ne veut pas servir Dieu, quand un chrétien ne veut même pas adorer le Seigneur, il va passer à côté de quelque chose. Et l'apôtre Pierre a failli passer à côté de quelque chose, car le Seigneur lui dit bien, « Mais si je ne te lave, tu n'auras pas de communion avec moi. » Nous devons laisser l'eau de la parole nous laver. Nous devons laisser le Seigneur nous instruire certaines choses. Parce qu'on a appris des choses dans notre vie spirituelle. Mais on apprend encore certaines choses. Et le Seigneur leur dit bien, je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Et nous devons, mes frères et sœurs, nous faire du bien les uns les autres. La Bible le dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Est-ce que vous aimez faire du bien ? Est-ce que vous aimez faire du bien à ceux qui vous font du bien ? Est-ce que vous avez fait faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal ? Est-ce qu'on peut faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal ? Comment ? En étant hypocrite, en leur sautant au cou, en disant « Ah, oh, je t'aime !» Si tu savais comment je t'aime, on en pense, c'est pas vrai. Mais après, le Seigneur m'a dit de t'aimer, alors je t'aime. Est-ce que c'est ça, aimer les gens ? Bien sûr que non, ça c'est l'hypocrisie. Mais on peut avoir eu des problèmes et dire au Seigneur, bénis cette personne, selon ta volonté. Bénis. Quand on bénit, on fait du bien. Bénir, ça veut dire faire du bien. Voilà. Quand on prie pour quelqu'un, on lui fait du bien. Et la Bible dit, aimez vos ennemis. Oui, nous avons des gens qui sont contre nous. Oui, il y a des gens qui nous ont fait du mal. Mais si le Seigneur nous demande de les bénir, c'est ça, laver, c'est ça, être en bénédiction aux autres. Nous sommes appelés à bénir. Ça fait partie de notre vocation. Un chrétien qui ne bénit pas est un chrétien qui n'a pas été appelé. Est-ce que c'est écrit ? Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelé. Afin d'obtenir la bénédiction. Il y a des chrétiens, ah non, moi pardonner ? Jamais. Les païens parlent comme ça, mais ils ont raison, ils ne sont pas convertis. Est-ce que c'est normal qu'un païen ne pardonne pas ? Oui, il est dans les ténèbres. Il n'a pas reçu la grâce de Dieu. Mais un chrétien, est-ce qu'il peut pardonner un chrétien ? Il peut et il doit. Il doit parce qu'il est libéré. Et le Seigneur, il ne nous montre pas dans cette affaire qu'il les avait déjà pardonnés tous ? Dites-moi, est-ce que le pardon, il n'était déjà pas acquis pour eux ? Il met le comble à son amour pour eux. Il prend la forme d'un serviteur. Il s'humilie. Vous savez, le Seigneur Jésus, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais bientôt, il va revenir. Mais en fait, il ne va pas revenir... comme un serviteur et comme un esclave, Jésus. Vous le savez. Jésus va revenir comme le Seigneur de gloire. Et là, on ne pourra pas dire, mais si on a affaire au Jésus des évangiles, quelle affaire ? Ça ne va pas être tout à fait le même. Il est venu comme le sauveur du monde, le rédempteur, comme l'agneau, hein, l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais là, il ne va pas du tout revenir. D'ailleurs, l'apôtre Jean, qui l'a vu dans l'Apocalypse, il est tombé raide mort quand il l'a vu. S'il y avait quelqu'un qui connaissait Jésus sur la terre, c'était bien Jean. Hein? On le voit. D'ailleurs, Jésus lui-même dira que c'était le disciple qu'il aimait. Et pourtant, quand il va le voir dans l'Apocalypse, il va tomber raide mort. Ça nous montre que la révélation est progressive et que plus on connaîtra Jésus, plus il sera grand et plus il nous éblouira. Oui, il va revenir. Et mais en attendant, nous devons faire ce qu'il nous demande. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oui, dans la famille, c'est important d'encourager. Laver les pieds, c'est encourager. Est-ce que c'est bien d'être encouragé ? Ce matin, je discutais avec une sœur, d'ailleurs, qui va nous donner son témoignage. Elle avait un magasin à vendre et le patron de ce magasin ou le propriétaire des lieux, je ne sais pas, lui a dit, vous le vendrez ? Jamais ! Jamais vous le vendrez ! Et bien sûr, cette sœur, elle a prié et Dieu l'a bénie. C'est incroyable comment le monde est fait de gens qui font que décourager. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Mais nous les chrétiens, nous devrions continuellement encourager les uns, encourager les autres. Oui ou non ? On devrait leur faire du bien. C'est vrai, tu as un problème, mais on va prier, prends courage. On va jeûner avec toi. On devrait continuellement s'encourager dans nos familles. On ne devrait pas continuellement se diminuer. Le monde est rempli de moqueurs, de pervers, de malades. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous faites attention à la façon dont même les journalistes présentent certains sujets. Combien c'est vicieux et combien ils se moquent. Vous avez vu ? Et c'est une école tout ça. Les gens passent des heures devant la télé. Ils ne se rendent pas compte qu'ils déteignent sur eux. Et s'ils ont affaire à un journaliste qui est cynique, sans s'en rendre compte, ils le deviennent. Parce qu'ils reproduisent, c'est comme ça. On enfante selon son espèce. Mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à encourager. Laver les pieds, c'est faire du bien aux autres. Ne vous lassez pas de faire le bien. Les ténèbres s'épaississent, mais nous les chrétiens, nous voulons bénir. Nous voulons surmonter le mal par le bien. C'est un commandement. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Et je ne veux pas être un prophète de malheur, mais moi je vous dis que le mal, il augmentera. La méchanceté augmentera. La violence augmentera. C'est un scoop ou c'est écrit? Mais c'est écrit. Vous le savez que c'est écrit. Et ça va arriver. Les prophéties sont là. Ça sera comme du temps de Noé. Les pensées du cœur des hommes se portaient uniquement vers le mal. Des fois, du Seigneur, Seigneur béni, béni. Mais non. Je fais bien sûr que Dieu bénit. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne veulent pas de Dieu. Et le monde est de plus en plus enfermé. C'est un peu comme un cancer qui se généralise. Voilà, on attend la fin. C'est pas vrai? Est-ce que l'image est bonne? Je crois que oui. Mais Dieu garde ses enfants. Dieu nous garde. Et là, on a un exemple. Oui, il y avait Judas. Il aurait pu dire à Judas, attends à toi, écoute, Judas, je veux bien laver les pieds à Pierre parce qu'il va revenir, mais toi quand même. Hein. Vous savez, ce matin, on a parlé de Jacob, d'Ésaü. Regardez, Jacob, il s'est ressaisi. Ça n'allait pas, Jacob. Mais il s'est ressaisi. Il a appris des leçons. Et Dieu l'a béni. Il a pleuré. Mais Ésaü, c'est quand même, c'est le petit-fils d'Abraham. Et cet homme, il s'est perdu. Il est parti à l'enfer, cet homme. Il faut voir les choses comme ça. Être le petit-fils d'Abraham, parce qu'il a profané le droit d'aînesse. Il a méprisé les choses de Dieu. Est-ce qu'il savait qu'il fallait pardonner? Et bien sûr. Avec le papa qu'il avait, avec le grand-père qu'il avait, je pense qu'il devait savoir des choses. Mais il a choisi le mal. Et quand il a voulu obtenir la bénédiction, c'était trop tard. Et quand on meurt et qu'on n'a pas fait la paix avec Dieu, c'est trop tard. Trois secondes après la mort, tous les gens qui ont refusé Jésus voudraient la bénédiction, pensez donc. Mais c'est trop tard. C'est pour ça que c'est sérieux, la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur, ben repentez-vous. Repentez-vous. Judas, tout malade qu'il était, tout avare qu'il était, tout cupide qu'il était, une fois qu'il a jeté l'argent dans le temple, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, au fait? Est-ce qu'il aurait pu galoper à Golgotha? Dites-moi. Ben oui. Est-ce qu'il aurait pu aller demander pardon au Seigneur? Est-ce que Jésus l'aurait pardonné? Mais bien sûr. Tout péché et tout blasphème sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Je n'explique pas ce que c'est cet après-midi. Mais il aurait pu. Et il n'a plus cru au pardon. Parce que vous savez, à force de jouer avec le mal, on s'endurcit. Et tous ceux, et là je m'adresse aux jeunes, ou même aux moins jeunes, qui disent, mais moi je me convertirai sur le tard. J'attends, je profite du monde, je jouis du péché, et au dernier moment je me convertirai. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, au dernier moment, ils n'ont pas pu se convertir. Pourquoi? Eh bien parce que leur cœur était tellement endurci, le diable avait tellement d'emprise, vous savez comme sur Pharaon, qui s'était endurci. Et d'ailleurs, c'est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les gens, ils disent, oh, c'est pas grave, j'attends, mais ils ne comprennent pas une loi spirituelle, c'est que plus on attend, plus on endurcit son cœur. C'est ce que je disais hier aux hommes à la réunion d'hommes, c'est ça, il y a des gens, eux, ils pensent que, bon, Ésaü, il préférait la chasse, c'était pas un péché en soi de chasser, il aimait bien manger, ce sont pas des péchés, mais ça l'est devenu. Parce que tout ça, ça l'a empêché de mettre Dieu en premier. Ce n'était pas des péchés pervers. Voyez mes frères, mes sœurs, comment le Seigneur nous donne un exemple. Seigneur, apprends-moi à aimer. Ce matin, j'ai lu ce verset dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 14, verset 1er. Recherchez l'amour. Il faut le rechercher. Il y a des textes, on peut en lire un ou deux. On est dans l'évangile de Jean, regardez. On peut lire. C'est un commandement. Jean chapitre 13, alors on pourrait prendre une heure. On pourrait le faire. Bon, on ne va pas le faire, mais on pourrait le faire. Regardez, Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement. Est-ce qu'il était nouveau en vérité? Non. C'est le premier commandement d'aimer Dieu. Il est nouveau dans le sens où c'est quelque chose qui doit tout le temps être renouvelé. Vous comprenez? Même l'apôtre Jean dans les Épîtres dit « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est quelque chose qui doit tout le temps se renouveler dans notre vie. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous connaissez la doctrine par cœur. » C'est pas ça? pardon, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, vous savez, on peut raconter toute la doctrine, c'est bien, par contre, c'est bien de la connaître. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, s'il y a bien une chose qui touche les gens, c'est quand on les aime. Quand on les aime vraiment. Et quand on déverse de l'amour sur eux. On pourrait prendre d'autres textes. Il y en a une quantité. Mais même, regardez dans Jean au chapitre 14. Dieu met l'amour au niveau de l'obéissance. Puisque, vous voyez, il dit, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Verset 23, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. » On voit bien que même c'est un commandement d'aimer. Pour les gens, aimer, non, mais moi, je l'aime pas. Mais recherchez l'amour. Est-ce que dans un moment de prière, on a parlé de la miséricorde, de la paix, de la douceur? Est-ce qu'on ne devrait pas dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour? Est-ce que Dieu peut nous donner de l'amour pour quelqu'un? Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience. Peut-être que vous l'avez faite. Hein? C'est une belle expérience, ça. D'avoir un conflit avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà eu du mal à aimer quelqu'un. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On ne va pas dramatiser. Mais par contre, on va être sérieux. Tu vois, Seigneur, dire la vérité. La Bible dit que celui qui porte du fruit, c'est celui qui a un cœur honnête. Seigneur, tu vois, je manque d'amour. Tu vois, mon patron, je commence à avoir de la rancune. Je te demande pardon. Donne-moi de l'amour pour mon patron. Ou pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être la belle-mère. Est-ce que ça peut arriver? Non, mais sérieusement, est-ce que ça peut arriver? C'est quand même sérieux, cette affaire. D'avoir du mal à aimer quelqu'un. Est-ce que Dieu est capable de vous remplir d'amour pour cette personne? Mais ben oui. Vous avez vu Jésus? Quand Judas l'arrête dans le jardin de Gethsémané, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? La dernière chose que Jésus a fait envers Judas, il l'a embrassé. Est-ce que Jésus a été hypocrite? Non. Je crois que c'était une dernière leçon d'amour. Vous ne croyez pas? Il l'a embrassé. Il n'a pas fait du cinéma. C'était profond. D'ailleurs, il a dit mon ami. Parce qu'en vérité, ce que Judas était en train de faire, en même temps, contribuait au plan de Dieu. Donc il ne l'a même pas jugé. Il l'a embrassé. Pour certainement encore lui tendre la perche. Oui, Jésus aura aimé les siens jusqu'au bout. Et même sur la croix, quand il est crucifié, la première parole qu'il prononce, c'est « Pardonne-leur ». Voilà les premières paroles de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur ». Voilà, je vous ai donné un exemple. Et si vous souffrez, justement de, si vous aimez les uns et que vous n'aimez pas les autres, c'est que vous abordez la vie affective avec votre amour, celui que nous avions avant notre conversion. Avant notre conversion, est-ce que nous aimions certaines personnes? Est-ce que Jésus parle des païens qui aiment des païens? Oui, il le dit, mais les païens font de même. Ils aiment les amis. Mais nous avons de l'amour, nous avions de l'amour avant notre conversion. Mais cet amour-là, il était humain. Et nous aimions les gens avec qui nous avions envie d'aimer. Mais là, l'exemple que le Seigneur nous donne, c'est d'aimer tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas en affinité avec tout le monde. Ça, c'est vrai, on ne va pas non plus aller jusque-là. Mais on peut aimer tout le monde et dire, Seigneur, ce frère, je le bénis. Quand on entend des chrétiens, comment ils parlent de leur patron, ou combien certains patrons chrétiens parlent de leur employé, ça ne va pas. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens soient heureux. Parce qu'on l'a lu, pour terminer, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, nous devons aimer. Et si nous n'aimons pas suffisamment, bien c'est comme pour la sagesse. Il est dit, si vous manquez quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. J'ai eu ce problème avec un gars avec qui je travaillais avant d'être pasteur. Ce gars, il m'énervait. Toute la journée au travail, il m'énervait. Faisait que critiquer, il parlait mal, des blagues bêtes. Vous savez, des gens qui vous irritent. En plus, la Bible dit, ne t'irrite pas contre les méchants. Il y a des situations qui vous irritent. Alors quand vous travaillez pendant des années avec quelqu'un, et je me suis rendu compte le matin en lui serrant la main, qu'il m'agaçait. Et au bout de 3 ou 4 jours, j'ai dit, ça ne peut pas aller ça. T'es chrétien, tu dis ça va. C'était de l'hypocrisie. Et j'ai eu honte parce que je me rendais compte que je ne l'aimais pas. Et ça faisait 6 mois que j'étais chrétien, et je me disais, mais ça commence bien. Il y a Simon que tu es chrétien, il y a un gars que tu commences à avoir en aversion. Et le matin, j'ai prié. Ça n'a pas duré longtemps. 3 ou 4 jours. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de l'amour pour ce garçon. Quand je lui parlais de Dieu, il se moquait. Il me dit, moi, le jour où je verrai Dieu, je lui expliquerai. Avec des mots qu'on ne peut pas citer, croyez-moi. Et ça m'a agacé. Et pendant 3-4 jours, le matin, avant d'aller au travail, je priais. Et je dis, Seigneur Jésus, donne-moi de l'amour pour ce garçon. Donne-moi de l'amour pour ce gars. Et au bout de 3 ou 4 jours, quand je lui ai serré la main, j'ai vu que je le faisais de tout mon cœur. Et ça a été une de mes premières expériences de rechercher l'amour. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux parce qu'ils acceptent le conflit. Et bien c'est comme ça, il y a des gens qu'on peut accepter, il y a des gens qu'on n'aime pas, c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Et bien ça, c'est le comportement des gens qui se rétrogradent. Un chrétien, il dit, j'ai besoin de recevoir de l'amour. S'il est écrit rechercher l'amour, et bien c'est parce que c'est un verbe actif qui nous demande l'effort. Peut-être que vous n'arriverez pas à laver les pieds à tout le monde au début, mais je suis convaincu que plus nous dirons, Seigneur, donne-moi de l'amour, non pas que pour les chrétiens, ça c'est facile les chrétiens, mais donne-moi de l'amour pour mes voisins, ceux qui font du bruit, ceux qui mettent la sono à fond, donne-moi de pouvoir leur parler un jour. Seigneur, donne-moi de l'amour pour tous mes prochains. Le prochain, c'est la personne que vous côtoyez. Demain matin, votre prochain, ça sera votre chef de service, votre collègue. Ce soir, ça sera votre épouse, votre mari. Voilà, tu aimeras ton prochain. Et comme ça, on peut leur faire du bien. L'image de laver les pieds est une image extraordinaire. C'est pas vrai ? Bon, aujourd'hui, on ne le comprend pas tellement, parce qu'on a tous des chaussures, on a des chaussettes, nos routes sont impeccables et tout. Mais n'oubliez pas qu'ils marchaient pieds nus dans des sandales. Et qu'ils se salissaient, que les routes n'étaient pas dans le même état. Ils se blessaient plus facilement. Et que ça devait être agréable tous les jours, ou même plusieurs fois par jour, de se laver les pieds. Les pieds, c'est la marche. Et nous, nous salissons, tous. Nous marchons, nous sommes sanctifiés. D'ailleurs, il le dit, Jésus, vous êtes purs, mais non, pas tous. Mais il dit, mais quand Pierre dit, alors pas les pieds, mais les mains, la tête. Vous voyez ? Je dis, non, les pieds. Parce que Dieu nous a sanctifiés. Quand nous avons pris le baptême, nous avons été sanctifiés. Quand nous nous sommes convertis, quand nous nous sommes repentis, nous avons été sanctifiés. Mais dans la marche de tous les jours, nous nous salissons. Et nous avons besoin, régulièrement, de nous laver. Seigneur, pardonne-moi. Frère, pardonne-moi. C'est ça, se laver les pieds. De se faire du bien. De prendre la forme du serviteur. Oui, Jésus, accroupi, avec un linge autour des reins, en train de laver les pieds, quand on voit que c'est lui qui a créé les galaxies, on a du mal à... Oui ou non ? Est-ce que Jésus a perdu son autorité parce qu'il avait les pieds à ses disciples ? Dites-moi. Est-ce que Jésus s'est posé la question ? Est-ce qu'il a dit non, si je leur lave les pieds, mais moi quand même, je suis le Seigneur, le Maître. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Vous savez, quand on sert Dieu, on ne perd pas la bénédiction, on ne perd pas l'autorité. Quand on sert Dieu, on est heureux. Et je termine avec cette histoire à laquelle j'ai fait allusion ce matin, parce que toute la semaine, j'ai vraiment été touché par cette histoire. C'est dans Matthieu chapitre 26. C'est cette fameuse Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, cette femme qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, si vous lisez l'Évangile, combien de gens se sont approchés du Seigneur ? Allez, dites-moi. Est-ce que vous savez le nombre exact d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, de religieux, de païens, de pêcheurs, de militaires ? Qui peut me dire combien d'hommes et de femmes se sont approchés de Jésus ? Des dizaines, des centaines de milliers. À des fois, il est dit qu'il y avait des milliers, qui s'assemblaient. Donc, des milliers se sont approchés. Mais pourquoi ils se sont approchés ? Parce qu'il était lépreux, parce qu'il était aveugle. Même ceux qui avaient une grande foi et qui ont été bénis et qui ont été loués par Jésus lui-même, Jésus a admiré une personne. Il a admiré le centenier. Et il a dit, mais même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Est-ce que c'est bien ? Mais qu'on le veuille ou non, cet homme s'est approché pour un besoin. La syrophénicienne s'est approchée parce que sa fille était possédée par le démon. Et ainsi de suite, les milliers et les milliers se sont approchés pour être béni. Mais dans Matthieu chapitre 26, à verset 6, nous voyons ceci. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Ça correspondait à un an de salaire. Hein. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Cette femme, elle ne s'est pas approchée pour elle. Elle ne s'est pas approchée pour être bénie. Elle ne s'est pas approchée pour être guérie. Elle ne s'est pas approchée parce que sa fille était possédée. Elle ne s'est pas approchée parce qu'un de ses serviteurs était malade. Elle ne s'est pas approchée parce qu'elle avait un problème quelconque, ou elle manquait d'argent, ou qu'elle avait une perte de sang. Elle s'est approchée pour aimer le Seigneur. Cette femme, c'est Marie qui était assise au pied du Seigneur. Vous savez, quand Marthe s'est approchée, « Seigneur, ça ne te fait rien ?» C'est elle. Et cette femme au pied du Seigneur, elle recevait son amour. Vous croyez qu'elle était assise pour dire « Je reste là, j'ai une bonne excuse pour ne pas travailler ?» Elle était assise au pied du Seigneur parce qu'elle avait soif de Dieu. Et là, au pied du Seigneur, elle recevait. Dieu travaillait en elle. Elle travaillait peut-être pas pour Dieu, mais Dieu travaillait en elle. Et comme elle recevait, elle ne pouvait pas faire autrement que de donner. On l'a vu ce matin pour Jacob, quand il s'est réveillé de son songe, la conclusion, eh bien, je te donnerai la dîme. C'est inévitable. Lorsque quelqu'un est touché par la grâce de Dieu, il ne peut pas faire autrement que de donner. Et cette femme, je comprends pourquoi Jésus l'a dit, mais pourquoi vous lui faites de la peine? Pourquoi vous l'ennuyez à cette femme? Vous croyez qu'il n'a pas dû apprécier le Seigneur? Quelqu'un qui s'est approché que pour lui faire du bien. Le pasteur qui m'a formé, je m'en rappellerai toujours, j'y pensais cette semaine, le pasteur qui m'a formé, il m'a ouvert son cœur. Vous savez, c'était étonnant, moi je le craignais, je tremblais en sa présence. Quand j'allais étudier chez lui, je tremblais. Et il me dit, tu sais Gérard, les gens ils m'appellent que quand ils ont des problèmes. Ils viennent me voir que quand ils ont des problèmes. Ils viennent jamais pour me voir. Et ça m'a quand même interpellé. Mais qu'on le veuille ou non, regardez Jésus. Il y a qu'elle. Il y a qu'elle. Vous vous rendez compte, elle est venue à Jésus, mais ce n'était pas pour lui demander. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Et j'ai encore un problème avec Marthe. Depuis que Lazare est ressuscité, c'est la pagaille à la maison. Fais quelque chose, reprends-le. Non, elle est venue pour lui donner quelque chose. C'est pas bien. Et je termine. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Est-ce que vous donnez? Est-ce que vous arrivez à vous approcher de Dieu? C'est pour vous enseigner que je vous le dis. Est-ce que ça vous arrive de dire, Seigneur, je viens passer demi-heure, je ne vais rien te demander? Rien. C'est pour être avec toi, pour te dire que je t'aime. Vous croyez que Dieu le voit, ça? C'est pareil. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est ridicule. On s'approche de Dieu pour demander. On s'approche de Dieu parce qu'il y a un problème. Moi, je ne crois pas. Je crois que Dieu cherche des adorateurs. Cette femme, on parle d'elle des milliers et peut-être même des millions de fois par jour sur la terre. Est-ce que c'est possible?
Ben oui.
Je pense que dans des centaines de milliers d'églises, tous les dimanches sur la terre, on parle de cette femme. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu. Pour nous enseigner que aimer, il faut recevoir. Rechercher. Recherchons l'amour. Je ne sais pas si vous le faites. Il y a des choses que l'on ne fait pas. Il y a des choses, peut-être c'est notre faute à nous, pasteurs, on ne vous l'a pas enseigné. Vous voyez, on enseigne souvent sur la foi. Hein, on enseigne souvent sur la foi. Il vous sera fait selon votre foi. Demandez la foi, etc. Alors lisez la Bible et vous aurez plus de foi. On peut faire beaucoup de... Mais l'amour, s'il est dit rechercher l'amour, Seigneur, je veux aimer. Je veux, tu vois, il y a ces personnes, tu les as mis sur mon chemin. C'est pas marrant, Seigneur. Je te demande de l'amour. Et Dieu vous le donnera. Demandez et vous recevrez. Et si nous ne recevons pas, c'est l'apôtre Jacques, c'est que nous ne demandons pas. Mais il y a des choses, si vous les demandez, Dieu vous les donnera. Et vous serez heureux, parce que vous pourrez faire du bien aux autres. Vous pourrez les encourager, plutôt que de les démolir. Il y en a assez de gens qui démolissent dans le monde. Dans l'église du Seigneur, on est appelé à bénir. Oui, vous relirez ces histoires. Oui, c'est vrai. Vous êtes heureux. Si vous n'êtes pas heureux, il faut que vous vous mettiez à genoux. Seigneur, éclaire-moi. Est-ce que je fais le bien que tu voudrais que je fasse? Est-ce que je lave les pieds aux autres? Ou est-ce que je ne me les lave qu'à moi? Parce que les gens, ils pensent qu'à eux. Ils prient que pour eux. Ils se servent à eux. Ils prient, oui, mais c'est que pour eux. Si vous n'avez que 5 minutes à prier, ne priez surtout pas pour vous. Priez pour les autres. Rappelez-vous-en. Si vous n'avez que 5 minutes ou un quart d'heure à prier, ne pensez même pas à vous. Pensez aux autres. Ça plaira au Seigneur. On ferme les yeux. On est là, on répond à cette prédication dans notre cœur. On voit que Dieu veut bénir. Dieu veut que vous soyez heureux, que vous soyez plein de miséricorde, plein de paix, plein de douceur. Vous aimez peut-être le Seigneur. Vraiment, vous l'aimez. Mais il faut rechercher son amour. Par la foi, dans un moment de prière, tous les matins ou tous les soirs, Seigneur, remplis-moi de ta vie. Et faites une expérience avec peut-être là ou les personnes avec qui ça, c'est difficile. C'est pour ça que la Bible dit ne vous irritez pas. Ce n'est pas sage. Seigneur, donne-moi ton amour. Notre Père, notre Dieu, tu nous as rassemblés cet après-midi. Tu nous vois, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Comme Pierre, comme les apôtres, comme les disciples, nous nous sommes approchés de toi. Tu nous as lavés, purifiés. Notre marche nous rappelle et nous montre bien combien nous avons besoin de nous laver les pieds, les uns, les autres. Seigneur, tu nous as préparé une part dans ton ciel de gloire. Et nous voulons réclamer cet amour. Tu vois ceux qui en ont particulièrement besoin. Que leur esprit soit marqué par ce verset des Corinthiens, de s'appliquer à rechercher cet amour que tu vas leur donner. Oui, tu donnes à celui qui te demande. Oui, tu ouvres à celui qui frappe. Tu éclaires et tu montres le chemin à celui qui cherche. Oui, tu es un Dieu plein de miséricorde. Tu as mis le comble à ton amour ce jour-là. Tu as comblé Jacob alors qu'il fuyait de ton amour. Et toute ta parole nous montre qu'en fin de compte, tu n'arrêtes pas de nous rattraper par ton amour. Seigneur, que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.